A long way from home.
En sol majeur, Yasmine Joaquin. En sol majeur.
Patouche, Annabila Yuch, le réalisateur franco-marocain, l'un des meilleurs de sa génération, vient de prendre place dans le fauteuil d'En sol majeur. Alors même si depuis quelques années il vit au Maroc, pays de M6, son royaume à lui, c'est le cinéma, et pas n'importe quel cinéma. Depuis Mektoub et Alizawa, prince de la rue, jusqu'à Razia, son nouveau long-métrage, Nabila Yuch a les mains dans le cambouis. L'impunité des puissants, la prostitution, les minorités religieuses ou sexuelles, le conflit du Moyen-Orient, toutes ces thématiques le réveillent la nuit. Elles sont même le moteur de son regard sur ce Maroc qu'il aime tant. Réalisateur majeur qui sent le souffre aujourd'hui depuis le scandale de Much Loved sur le quotidien des prostituées de Marrakech, une censure et de nombreuses menaces de mort plus tard, Yuch s'est débarrassé de ses gardes du corps, mais pas de ses convictions progressistes. Bonjour et malhaba, Nabila Yuch.
Bonjour, merci.
Plus de garde du corps, vraiment ?
Oui, vraiment. Ça a duré 6 mois à peu près, cette période d'hystérie. J'ai senti qu'il fallait me protéger, mais aussi protéger ma famille et surtout mes actrices. Et depuis, ça va beaucoup mieux, même si la tension n'est pas complètement redescendue, parfois.
Donc on peut prendre le risque de s'immerger ensemble dans le Casablanca que vous aimez. On y va. Alors que remarque le immigré, que vous êtes peut-être encore un peu dans ce casa que vous avez enregistré, Nabila Yuch?
Marché, vendeur, crieur à la sauvette, et puis des gamins qui jouent au foot dans la rue, parce que casa est empli de foot de rue, et moi c'est vraiment quelque chose à quoi je ne peux pas résister.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans tous ces sons?
La vie. La vie, casa est une ville extrêmement bruyante, violente par certains aspects, qui tourne le dos à la mer, qui est polluée et en même temps qui est terriblement en vie et d'une énergie folle. Et c'est ce qui fait aussi que tous les matins, quand je me lève et que je traverse cette ville, je me sens aussi en vie et que j'ai envie d'y rester. C'est une ville dans laquelle j'ai atterri il y a une vingtaine d'années maintenant, et que j'ai appris à connaître, pas par le centre, mais par la périphérie. Et cette périphérie est probablement encore plus vivante et vibrante que le casa du centre-ville.
C'est la périphérie des bidonvilles dont vous parlez ?
Les bidonvilles, les quartiers populaires, les gares, Mahatat Kelen, comme on dit en arabe, c'est-à-dire la gare de départ de car vers tous les coins du Maroc. Voilà, tout ça, c'est des lieux que j'ai arpentés l'année où je me suis installé beaucoup pour Alizawa, mon deuxième long métrage avec des enfants de la rue, et c'est des lieux qui ont fait que le jour, la nuit, il y a un lien très fort qui s'est créé entre cette ville que je connaissais très peu pour y avoir passé des vacances dans mon enfance et moi.
C'est le titre de votre premier long métrage, Nabila Yuch, magnifique thriller qui met en scène la classe dominante du Maroc et d'une certaine manière la figure des RG de Casablanca, enfin vite dit comme ça. Mais vous pensez quoi, vous, de ce mot, Mektoub ?
C'est un mot très ambigu. J'ai envie de m'y attacher parce qu'il a un sens profond et peut-être encore plus chez nous, dans les cultures du sud de la Méditerranée. Et j'ai envie de m'en détacher aussi parce qu'il induit forcément une forme de déterminisme. Donc il y a une certaine ambivalence dans ma relation au destin.
Alors est-ce que pour vous qui êtes né en pleine année érotique, hein, à Paris, Je laisse les auditeurs repérer ce que c'est. Et vous qui avez vécu donc de 5 à 14 ans à Sarcelles, donc en banlieue parisienne, est-ce que c'était votre destin d'aller vivre au Maroc ?
Je crois qu'à un moment donné ou à un autre, dans ces questionnements identitaires qui m'ont hanté pendant toute mon enfance, et notamment la partie sarcelloise, qui est une ville très communautariste, et où je me sentais un petit peu sans appartenance, sans étiquette.
Comment vous expliquez ça, ce sentiment de ne pas appartenir ?
Parce que je sentais très profondément mon attachement à la culture française, puisqu'elle m'a donné l'école, l'éducation, le centre culturel qui m'a ouvert les yeux sur le monde. Et en même temps, avec un nom comme le mien, avec quelque part un appel lointain pendant les vacances de Casablanca, de Fès, de ma famille marocaine, je sentais que j'étais pas complètement français. Et à ça, j'ai ajouté la problématique religieuse, mère juive, père musulman, école laïque.
Beaucoup de composantes à négocier.
Et vous savez, il faut à la fois du temps, de la maturité, et puis peut-être aussi des rencontres pour comprendre que avoir plusieurs identités, c'est une richesse.
Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, l'évidence s'invite ?
Il n'y a pas d'évidence, il y a un désir qui commence à naître en moi, progressivement, en rencontrant le cinéma. Et je redécouvre cette identité enfouie, cette identité jamais apprise, finalement, grâce au cinéma. Et c'est ça qui est beau. Les premiers courts-métrages, quand j'avais 21 ans, ça s'appelle « Les pierres bleues du désert », avec dans le rôle principal un gamin de Trappes qui avait 14 ans à l'époque, qui s'appelle Jamel Debbouze.
Ah oui.
Nous emmène, Jamel et moi, à Taroudant, à Tiznit, à Tafraout, vraiment dans ce Maroc berbère profond, du Sous. Et j'aime y retourner, et j'aime aussi construire mon cinéma là-bas.
Je partais ainsi loin de ma rue, seul ou avec les autres gamins. Nous étions les enfants des poubelles. Un jour, j'ai trouvé dans un coin de la rue une poule morte. Je l'ai ramassée et l'ai cachée sous ma chemise. Je la serrais contre ma poitrine, j'avais peur de la perdre. Mes parents n'étaient pas à la maison, seul mon frère était étendu, ses grands yeux éteints surveillaient l'entrée. Quand il vit la poule, une lueur traversa son regard. Vous reconnaissez ces lignes ?
Je crois. C'est un extrait du livre d'Alizawa, c'est ça ?
Alors, c'est une question justement. C'est le pain nu de Mohamed Choukri, absolument. D'accord. Et je me demandais si cette sensibilité qui vous caractérise par rapport à l'injustice de la société marocaine, elle est née de cette lecture ?
Choukri m'a évidemment inspiré sa trajectoire dans la rue, ce qu'il raconte de ce Maroc, des bas-fonds de Tanger, la manière dont il est question plus de survie et la crudité avec laquelle il raconte son parcours sans concession m'a évidemment beaucoup inspiré, notamment pour Alizawa, mais pas seulement. J'ai eu envie à une époque d'adapter Le Pain Nu et j'ai appelé Choukri, on en a parlé plusieurs fois. Et ça s'est pas fait, il avait cédé les droits, un réalisateur italien, je crois, il est mort peu de temps après.
Mais cette idée de raconter le Maroc, pour vous qui avez vécu quand même une grande partie de votre vie en France, ça aussi c'était une évidence ?
L'évidence, ça a été d'être choqué, d'être interpellé par une réalité dont on ne parlait pas, dont on ne voulait pas parler, qu'on voulait taire. Et venant de là où je venais, il y avait une espèce d'incompréhension totale.
De là où vous veniez, c'est-à-dire d'un milieu aisé, par exemple ?
Non, pas du tout, parce que j'ai eu une enfance à Sarcelles, classe moyenne, quoi. Vraiment, mère prof d'espagnol. On a vécu seul, mon frère et moi, avec elle pendant toutes ces années-là.
Vous avez un papa qui est connu, je pense, au Maroc, Nourdine Ayouch, qui a été le fondateur de la première association du microcrédit au Maroc.
Absolument. Mais quand je dis de là où je venais, c'est plus cette partie de ma culture française où les choses se discutent, les choses se débattent.
Merci André Malraux.
Ah mais oui, mais sans aucune hésitation, mille fois oui.
Car c'est lui qui a insufflé ces maisons de la culture en France et ces lieux de débat finalement qui ont pris en vous visiblement.
Grande idée de Malraux, un moment où les gens ne peuvent plus aller vers la culture ou sont trop isolés, de se dire que la culture doit aller à eux. parce que j'oublierai jamais ce que ces éducateurs sociaux m'ont appris, que ce soit les cours de claquettes, de chorale, mes premiers concerts de Souchon-Voulzy, mes premiers films de Chaplin ou d'Eisenstein. C'est là-bas qu'ils m'ont permis d'ouvrir des fenêtres sur le monde. Et c'est probablement aussi plus tard ce qui m'a donné envie de rendre ce qu'on m'a donné en créant ces centres culturels au Maroc, qui sont une espèce de MJC 2.0 finalement.
Alors, votre indignation va faire de vous l'auteur de votre deuxième long métrage, Nabil Ayouch, Alizawa, prince des rues. Et pour En sol majeur, j'aimerais bien qu'on suive quelques secondes votre caméra qui opère à un moment du film, une lente plongée sur les immeubles de Casablanca, vue du ciel, jusqu'aux belles demeures cossues devant lesquelles trois enfants de rue attendent. Deux sont assis sur le trottoir. Ils sont en train de réfléchir en fait à comment ils vont enterrer Ali, leur meilleur ami qui vient d'être tué. Et le troisième enfant chante sous les vérandas fleuries, juste pour une petite pièce. Viens, mon fils bien-aimé, viens sous mon aile. Tu trouveras une maison entourée de verts jardins, tapissée de fleurs, de roses et de fleurs d'oranger. Tu y trouveras une main bienveillante et tu y seras aimé. Tes parents t'y attendront, tes parents bien-aimés. Ils t'attendent. Le cœur débordant d'amour.
On meurt pas à cause d'une pierre. Comme un chien. Ça dépend où ça tombe. Comme un chien. Il est vraiment mort? Tu l'as jeté comme un chien. Tu voulais qu'on se fasse choper? Au moins, il est dans sa cave.
Ali, c'était un prince.
Un prince? Je croyais que sa mère était une putain.
Il faut qu'on l'enterre. On va l'enterrer aujourd'hui.
Alizawa, prince des rues pour En sol majeur sur RFI. C'est un film qui donne encore la chair de poule quasiment 18 ans après, Nabil Ayouch. C'est l'un, je dirais, de vos premiers manifestes sur l'une des injustices de la société marocaine, les enfants des rues. Alors, je crois qu'à part Saïd Tagmawit, qui est un comédien qui travaille aux États-Unis d'ailleurs aujourd'hui, lui, il joue le chef des enfants des rues, une sorte de macro, sourd et muet dans votre film.
C'est pas un macro, c'est un chef de bande. Chef de bande à la fois protecteur et abuseur.
Oui.
Donc assez ambigu.
Voilà, et il a sous ses ordres une sorte de cour des miracles comme ça. Alors ma question, c'est simplement, comment vous avez fait avec ces enfants des rues? Est-ce que ce sont de vrais enfants de rue que vous avez fait jouer?
Oui, ce sont des enfants que j'ai rencontrés au fur et à mesure de mon parcours. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux, jour, la nuit, dans tous les quartiers de la ville, à arpenter, à jouer au foot, à manger avec eux.
Donc ils vous ont fait confiance? C'était ça, non, le pacte numéro un à réussir?
Il fallait qu'ils me fassent confiance. Il fallait d'abord aussi qu'ils aient envie de faire ce film. Il fallait qu'ils comprennent que le cinéma, c'était pas un métier, c'était une expérience, et qu'il fallait pas qu'ils attendent trop de l'après, parce que c'est toujours ça le risque. Donc j'ai été très clair avec eux dès le début. Et avec ce pacte de confiance, de désir et cette compréhension de ce qu'on était en train de faire, on a pu effectivement démarrer un tournage qui reste très compliqué et en même temps magnifique dans mon souvenir.
Comment vous avez compris que vous vouliez faire du cinéma?
J'ai eu une envie irrépressible de m'exprimer, de dire ce qui me hantait, ce qui me révoltait. Et comme je savais ni chanter, ni danser, ni peindre, petit à petit, du théâtre, parce que j'ai fait quelques années de théâtre à Paris, où j'ai tenté d'être comédien, mais j'étais pas très bon comédien, du théâtre et de l'actorat, je suis passé à la mise en scène. Et de la mise en scène, j'ai découvert cet outil et je me suis dit, tiens, j'aime ça. J'aime dire le monde et dire ce qui me hante à travers ça. cet écran. Parce que cet écran est grand. Quand on est dans une salle et qu'on est face à un écran de cinéma, on est tout petit. Et le fait qu'il soit grand impose à la fois une forme de distance et de sincérité. Parce qu'on ne peut pas mentir sur un écran de cinéma. Si on ment, en tout cas, ça se voit tout de suite. Donc on est obligé de se mettre à nu et de dire qui on est.
Alors, puisque vous êtes né dans le cinéma français, je dirais, hein, vos premiers coups de cœur, pas que hein, d'ailleurs, mais...
Pas que, non.
Pas que, mais si on parle d'un cinéma d'auteur, on va tout de suite arriver à Claude Sautet.
Oui.
On va faire Trempette, donc, quelques secondes au pays de César et Rosalie, où l'histoire d'un ménage à trois, campé quand même par une sacrée distribution, Romy Schneider, Samy Frey, Yves Montand, avec dans le rôle du narrateur Michel Piccoli.
César pensait qu'on ne pouvait pas se quitter sans se le dire. C'est pourtant ce qui arriva. Ni lui ni David ne cherchèrent à la revoir.
Elle.
Rosalie en fut d'abord inquiète, puis rassurée. Elle n'osait compter sur elle-même. Mais elle pensa qu'avec le temps...
Elle, comme langue d'amour.
Un extrait en sol majeur de César et Rosalie, donc avec ses chassés croisés amoureux. Et d'ailleurs, la critique française à l'époque a longtemps vu le cinéma de Claude Sautet comme un cinéma bourgeois et très français.
C'est l'époque aussi qui voulait ça.
C'est l'époque aussi qui voulait ça. Un cinéma où on passe quand même beaucoup de temps à table. C'est une spécificité du cinéma français peut-être. Que représente son cinéma pour vous, Nabil Ayouch ?
Un amour profond pour l'humain et une capacité comme nul autre, je crois, à parler du quotidien, oui, et du rapport à l'autre.
Vous aimez aussi le cinéma d'un certain Jacques Audiard, d'un certain Franck Capra, donc votre scope, on va dire, il est assez large. Et puis, bien sûr, il y a cette interrogation autour du cinéma arabe. Est-ce que Nabil Ayouch aime le cinéma, connaît le cinéma arabe ?
Oui, c'est pas tant que je l'aime ou pas, c'est que je le connais finalement assez peu. Alors, bien sûr, j'ai vu quelques grands classiques, et puis notamment les films de Chahine, et plus récemment les films d'Elia Suleiman, comme Intervention divine et autres.
Réalisateur palestinien ?
Oui. Après, c'est pas un cinéma dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai baigné, que je connais suffisamment.
Et qui vous parle, finalement ?
Non, parce que ce que j'ai vu, à de rares exceptions près, est souvent surinterprété, surligné.
Vous pensez que votre cinéma, à vous, c'est toujours difficile hein, de se définir, mais je pense quand même que vous devez avoir une idée. De par sa grammaire, de par vos choix de thématiques aussi, vous pensez que votre cinéma a une identité particulière ?
Oui, mais alors ce serait pas à moi de la définir.
Oh, je pense mais entre nous.
Il y a le fait d'avoir grandi loin de ce pays dans lequel je vis aujourd'hui et dont je parle et dont j'aime parler, qui m'a probablement offert cette forme de distance et cette capacité à croire que je pouvais escalader n'importe quelle montagne et parler de n'importe quel sujet avec liberté. Et puis, à un moment, il y a aussi cette décision de me dire il y a quelque chose de vain d'en parler à distance, donc j'ai envie de franchir le pas, mais cette fois-ci pas du sud vers le nord, du nord vers le sud, et de m'y installer. Et donc forcément, il y a un autre regard qui se construit et qui vient épouser ce premier regard distant ou objectif, c'est selon, et créer quelque chose qui est certainement spécifique. Oui, mais encore une fois, là, je ne suis pas capable de dire pourquoi et comment.
Vous vous débrouillez pas mal, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous pensez d'abord en images vos films, Nabil Ayouch. Si oui, quelle serait la première image qui vous est venue en construisant Razia, votre nouveau film ?
Ah, alors, j'ai une image qui m'est venue, c'est celle d'une femme dans une salle d'attente. Une femme frustrée dans sa vie conjugale et qui fantasme et qui a en face d'elle un homme qu'elle ne connaît pas et avec lequel elle imagine une scène presque érotique. Presque érotique parce que ça ne va pas jusqu'à l'érotisme. Et puis voilà, c'est parti de là. Et de là, cette scène progressivement a disparu. Le personnage de cette femme est resté. Et je parle de personnage parce que mon cinéma ne se construit en général pas en partant d'une image. Là, c'est tout à fait exceptionnel et c'est drôle que vous parliez spécifiquement de Razia. Mais mon cinéma naît vraiment avec des personnages.
Razia, donc film où cinq destins s'entrelacent dans des époques différentes. On a l'instituteur berbère, le restaurateur juif, l'adolescente bourgeoise, l'épouse donc qui ne veut pas vivre sous le dictat de son mari, le chanteur qui rêve de devenir le Freddie Mercury du Maroc. Et ils ont tous un point commun, lequel ?
Une furieuse envie d'agir selon leurs désirs. Ouais. Qui est d'ailleurs le proverbe berbère qui démarre le film. Heureux celui qui peut agir selon ses désirs. Donc une furieuse envie de liberté, tout simplement.
Ils sont tous entravés dans leurs désirs.
Ils sont tous entravés, ils sont tous oppressés aussi, surtout. Que ce soit par la famille, que ce soit par le mari, que ce soit par la société, par l'autre.
Ils sont tous entravés. Alors il y a une scène d'une grande beauté dans ce film, avec l'instituteur berbère. On est dans les années 80, à ce moment-là. Il apprend à ses élèves, je dirais, la poésie d'une certaine manière. Il apprend à écouter les montagnes. On est dans les montagnes de l'Atlas du Maroc à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'un jour, on lui impose l'arabisation. Extrait. Il est là tout le temps. Il a transformé mon cours de sciences en cours d'éducation islamique. Il explique l'histoire par la religion, la géographie par la religion, et même la religion, il lui donne un autre sens. Il leur parle une langue qu'ils ne connaissent pas. Les élèves sont perdus. Ils répètent sans comprendre. Extrait en sol majeur de Razia Nabil Ayouch. Alors, pourquoi ouvrir votre film donc, qui raconte le Maroc à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui sur la question de la langue ?
Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et que quand à un moment on nous retire notre langue pour nous imposer une langue qu'on connaît, certes, la langue arabe classique qui est supranationale, partagée par 20 États arabes et qui est très belle d'ailleurs, on nous enlève une part de notre identité en faisant ça.
Et c'est ce qui s'est passé dans ce coin du Maroc, dans les montagnes de l'Atlas, à partir des années 80, avec ce programme d'arabisation forcée.
C'est ce qui s'est passé pas seulement dans ce coin du Maroc, c'est ce qui s'est passé dans tout le Maroc, dans toute l'Algérie, dans toute la Tunisie, puisque c'est une réforme qui est commune aux trois pays du Maghreb.
Oui. Qui a eu quelles conséquences, vous pensez ?
Ah, qui a eu à la fois la conséquence de créer une perte de repères, pour toute une jeunesse arabe qui a, avant ça, grandi avec le français, tout en étant pleine de ses langues.
Oui, il y a différents arabes, on ne parle pas le même arabe en Irak qu'en Tunisie ou qu'en Algérie.
Complètement. Et puis, arrivé à la fac, le retour au français.
On arrive à des générations de double analphabète, hein, comme on dit.
D'analphabète bilingue ou trilingue, absolument.
Et vous-même, vous êtes suffisamment arabophone, berbérophone, francophone, on l'entend, pour diriger ce genre de film sur des questions aussi sensibles que la langue ?
Vous savez, c'est très intéressant ce que vous me dites là, parce que c'est des questions que je me suis souvent posées. Je me suis dit, je vais faire des films au Maroc, je vais faire des films en arabe. En même temps, je suis né en France, ma langue maternelle, c'est le français, c'est pas l'arabe, c'est pas le marocain. Donc d'abord, j'ai commencé par, à distance, apprendre l'arabe. J'ai fait des cours aux langues zo, j'ai pris des cours particuliers avec des amis. Et très vite, en allant à Casablanca, alors que tout le monde me parlait en français, évidemment, parce que je ne comprenais pas l'arabe, j'ai décidé que j'allais apprendre l'arabe aussi par moi-même, l'arabe de la rue. Tlemzna, comme on dit, c'est-à-dire les paroles de la rue. J'aime le parler, j'aime l'entendre, j'aime l'écouter, j'aime le diffuser aussi. Je trouve que c'est une très belle langue.
Donc il y a eu une réappropriation de votre part, apparemment. Alors, même si vos questions sont politiques, Nabil Ayouch, dans votre cinéma, Razia, pour ne parler que de ce film-là, c'est pas un film d'idéologue, parce que vous êtes plutôt un portraitiste. Vous disiez tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse dans les films, c'est les personnages. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple, dans le personnage de l'instituteur ?
Sa défaite, son renoncement face à des idéaux, face à une utopie, probablement aussi, qui est celle de croire qu'à un moment, l'humanisme peut résister à l'oppression et au système. Et sa défaite, c'est quelque part la défaite d'une part de notre humanité. Parce que je crois que c'est ça qui est niché au creux de la montagne de ce petit village.
En tout cas, que ce soit pour le personnage juif qui est conduit par les femmes précisément parce qu'il est juif, l'épouse qui tente de s'émanciper de son mari, on va dire traditionnaliste, ce chanteur qui a du talent mais qui est méprisé par son père, de façon détournée, j'ai l'impression que c'est moins le poids de la société marocaine que vous dénoncez que la question religieuse qui a contaminé les esprits, ce qu'on pourrait appeler une forme d'islam de bazar comme ça. Vous montrez un Maroc devenu un pays d'idéologues. J'ai eu l'impression de voir ça dans Razia. Tout le monde a peur parce qu'il y a des idéologues partout.
En tout cas, il y a des gens qui prétendent vouloir imposer des règles au nom de leur vision de la religion. Et qui, là où le Maroc était un pays d'espace ouvert, le Maroc que j'ai connu et que j'ai aimé, dont j'aime parler, ferme des espaces à la femme, ferme des espaces aux minorités sexuelles, ferme des espaces aux minorités religieuses, leur disent comment ils doivent se comporter. Et c'est ça que je ne supporte pas.
Avec paradoxalement une loi qui ouvre le champ à l'égalité homme-femme, mais qui est refusée par la rue, étrangement, et par la rue féminine, on va dire.
Alors, ce n'était pas une loi, j'aurais bien aimé que ce soit une loi, c'était une proposition du Conseil national des droits de l'homme, ouais, en 2015, de dire « remettons en question l'idée de l'héritage tel qu'il a été jusqu'à présent énoncé. En l'occurrence, la femme hérite la moitié de l'homme. » Et là, dans la rue, il y a toute une série de flots de manifestants conservateurs qui sont sortis, effectivement, et c'est ce qui m'a probablement le plus peiné, et en même temps ouvert les yeux sur une réalité, avec à leur tête des femmes.
La grande idée de Razia, je trouve, c'est d'avoir mis en perspective ces cinq destins avec une foule, un peuple qui grossit et qui gronde dehors. Est-ce que vous souhaitez, Nabil Ayouch, être un réalisateur subversif ou c'est pas du tout votre projet ?
C'est très difficile de savoir ce qui est subversif ou ce qui ne l'est pas. Mm-hmm. Et je ne sais même pas si j'ai envie de savoir ce qui est subversif, parce que commencer à réfléchir à cette question-là, c'est se poser la question des lignes rouges. Je préfère laisser d'autres, les censeurs en l'occurrence, se poser eux cette question qui, pour moi, est contaminante.
Est-ce qu'il y a une scène dont vous êtes fier dans Razia, plus d'une j'imagine, qui défie justement la loi, le regard de la société ?
J'aime cette scène où le personnage de Salima, interprété par Mariam Touzani, quand elle se fait vilipender par un homme dans la rue parce qu'elle porte une jupe, décide, au lieu de rentrer chez elle pour mettre un pantalon, de la relever, encore plus court. Et ce que j'aime, au-delà de ce que raconte cette scène, c'est le combat de toutes ces femmes incarnées par Salima dans les rues de Gaza, d'Alger, de Tunis, du Caire, et d'ailleurs, même ici en Europe, parce qu'il y a beaucoup de quartiers ici dans les banlieues des grandes villes, ou même dans les grandes villes elles-mêmes, où les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles l'entendent, ici en Europe en 2018, offrent une réponse à ça.
Alors vous racontez de film en film le Maroc assez joliment, avec lucidité et avec grande tendresse, en même temps une tendresse violente, je dirais presque, Nabil Ayouch. Est-ce que comme Black Panther, qui aujourd'hui est un miroir tendu aux Africains, on a envie de dire enfin, est-ce que vous souhaitez que votre cinéma à vous soit un miroir pour les Marocains ?
J'ai envie en tout cas qu'ils aiment se regarder dans le miroir, qu'ils éloignent d'eux cette idée qu'un film qui parle d'eux, qui parle de leur réalité, est forcément blessant, est forcément agressif, et qui doit entraîner des réactions narcissiques. J'aime l'idée qu'on puisse vraiment se confronter à qui on est, parce que c'est probablement la seule manière de grandir, oui. Alors si mon cinéma peut incarner cette idée-là, bien sûr.
L'idée de l'autocritique ? Qui n'est pas le sport national dans nos pays arabes.
Non, on a du mal avec ça, ouais. Is this the real life? Is this
ecstasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again,
sur RFI pour votre en sol majeur Nabil Ayouch. En fait, j'ai tout compris, c'est vous qui êtes Freddie Mercury. Eh oui.
Pourquoi vous dites ça?
Mais parce que j'ai bien regardé Razia, il y a ce personnage magnifique que j'adore, qui se veut le Freddie Mercury du Maroc, en se taillant la moustache à la Freddie Mercury. En fait, il y a votre fantasme à vous de réalisateur derrière.
Il y a certainement un peu de ça, oui. Et puis, il y a certainement aussi un peu du gamin de sorcelle qui a découvert le monde à travers les arts et la culture.
Introverti, apparemment, et puis tout seul devant la glace, qui lâche les ballons.
En quête d'identité au pluriel.
Nabil Ayouch, romantique, poétique, enfantin, mais aussi terre à terre, terriblement.
Comme Terre Sainte.
Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé enfin votre chemin de Damas, mais en début d'émission, vous évoquiez votre double appartenance, en tout cas votre mère juive et votre père musulman. Et je sais qu'aujourd'hui, le conflit du Moyen-Orient est une souffrance, un dilemme, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il a fallu pour vous réfléchir à la question du camp? Quel camp choisir?
Non, parce que je suis toujours révolté par l'injustice, quel que soit le côté duquel se trouve l'injustice. Et cette révolte, elle ne date pas d'aujourd'hui. Cette révolte, elle date de mon enfance, parce que j'ai grandi au son du conflit, que ce soit du côté de ma famille juive ou du côté de ma famille musulmane, qui était en permanence branchée, connectée sur les médias, qui retransmettait ce qui se passait là-bas.
En même temps, il y avait une alliance des deux familles.
Non, il n'y a pas eu d'alliance des deux familles, il y a eu une alliance de mes parents. Par contre, ça a été compliqué pour eux, de chaque côté, de faire accepter ce mariage mixte.
Et vous avez vécu en même temps cette double appartenance, juive et musulmane?
Oui.
Donc Yom Kippour, l'Aïd, le Ramadan, Pessah, vous avez tout fait?
Ouais, enfin j'ai pas forcément tout fait, mais en tout cas j'ai tout vécu de manière, rituelle. Maintenant, de manière religieuse, très très vite, pris conscience que j'avais pas envie d'appartenir à une religion plutôt qu'à une autre.
Est-ce que l'idée d'aller en Israël a été compliquée pour vous?
Très compliquée. très compliqué parce que c'est un pays que je n'observais qu'à travers le prisme des médias et forcément avec une réticence très forte à me dire que je vais pouvoir aller mettre les pieds chez l'occupant.
Ah, c'est comme ça que vous le voyez.
À l'époque, oui, bien sûr.
Et ça a fait du chemin.
Oui, ça a fait du chemin parce qu'en 2003, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Yael Perlov, qui est une monteuse, cinéaste israélienne et qui m'a proposé de venir, mais dans un cadre tout à fait différent, en passant par la Palestine et puis en montrant mes films, donc à travers le cinéma, une fois encore, aux Palestiniens et aux Israéliens et de les réunir dans la même salle.
Et donc un jour, vous avez franchi le pas en réalisant le très beau documentaire « My Land ». L'idée de ce documentaire ?
C'est de donner la parole à des vieux réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps au Liban et qui ont été chassés de leur terre en 48 et qui n'y sont jamais retournés depuis. Donc qui vivent leur Palestine historique par procuration, à travers des images, leur demander de m'en parler, et cette parole d'aller la porter à des jeunes Israéliens de 20 ans qui aujourd'hui vivent sur les mêmes terres que là où vivaient ces Palestiniens.
Et donc on se retrouve avec vous dans le kibbutz par exemple, le kibbutz Sacha, c'est anciennement le village de Sa'asa, au nord d'Israël, c'est à la frontière du Liban, avec par exemple, c'est l'un de vos intervenants, Shai, qui explique que le mouvement sioniste leur enseigne qu'ici c'est leur terre.
On fait face à cette question. Mais on le fait seul. Ou parfois lors de discussions avec des amis du kibbutz.
Recently, I interviewed some refugees from Sa'asa in the south of Lebanon.
Would
you like to hear them, to see what I filmed?
Bien sûr.
Ça aurait été mieux si on avait organisé une rencontre.
Même si c'est effrayant.
Car ce sont eux les victimes.
Les victimes de cette histoire.
Je sens que je n'ai pas d'autre choix que de les écouter. C'est le moins que je puisse faire.
Je suis né en 1931 dans un village appelé Sa'asa, près de la frontière du Liban. C'était la nuit. Les gens dormaient paisiblement. Personne ne se doutait de rien. Je pense que c'était autour de décembre 48. Tout à coup, on a entendu des maisons exploser. 13-14 maisons ont explosé avec enfants et bétail à l'intérieur. Ils sont tous morts sous les ruines. Ça a semé la terreur parmi nous tous. Ceux qui ont conspiré collaient des affiches nous invitant à partir pour revenir 10 jours plus tard. Les gens ont fui le pays en pensant revenir 10 jours plus tard. Mais on attend encore ces 10 jours qui se sont transformés en mois, puis en années.
C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple de voir que quelqu'un paye le prix pour que je puisse vivre dans ce paradis.
Extrait en sol majeur de My Land sur RFI. Alors, c'est un documentaire, Nabil Ayouch, qui évidemment n'apporte pas la paix sur un plateau, hein, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il déstabilise quand même vos interlocuteurs. C'est-à-dire que écouter les témoignages de Palestiniens, de réfugiés palestiniens, change, déplace le jugement des Israéliens.
Oui, parce que c'est une jeunesse qui a grandi dans l'ignorance.
C'est ce qu'on découvre dans votre documentaire. Ils ne savent rien sur le sort des réfugiés palestiniens.
Non, ils ont une connaissance très fine et très complète de l'histoire de cette terre il y a 2000 ans. Mais dès qu'il s'agit de l'histoire contemporaine de leur terre, là, il y a vraiment un vide énorme qui a été construit. Cette ignorance est construite par les manuels scolaires, par les médias, par leur gouvernement, qui joue sur les peurs, évidemment, et donc, petit à petit, une volonté de ne pas savoir comment ça naître. Donc forcément, pour eux, il y a quelque chose d'assez violent à être confronté à ces images et à ces témoignages.
Pardon pour le portable. Alors je tiens à dire que c'est pas du tout un film manichéen que vous signez là, parce que dans votre casting, il y a par exemple la très belle présence d'Ephrat, israélienne, qui vit à Haïfa et qui est sur une position idéologique quand même très intéressante. Elle a par exemple refusé de faire son service militaire. Pour quelle raison ? D'abord, je ne savais même pas que c'était possible de ne pas faire son service militaire.
Si, il y a des objecteurs de conscience.
Eh bien, c'est un objecteur de conscience.
Oui, oui, ça existe, bien sûr. Et ce n'est pas évident pour eux, parce que le service militaire en Israël est non seulement obligatoire, mais il est long. Et il fait partie aussi, quelque part, d'un parcours obligé pour tout un chacun. Donc, dans un pays où ça a autant de sens de passer par la case armée, la réaction des frats, qui est de dire « moi je ne veux pas aller dans les territoires occupés et humilier des populations à des checkpoints », c'est un acte considéré comme un acte de rébellion.
Est-ce que cette enquête, on peut présenter ce documentaire comme ça, a changé votre regard sur la question du Moyen-Orient ?
Oui et non. J'en suis ressorti très, à la fois bouleversé et très pessimiste.
Alors que votre documentaire, en fait, donne à comprendre que s'il y avait de la communication, évidemment, c'est un si énorme.
Oui,
mais vous n'y croyez pas.
Bien sûr qu'il dit ça, ce film. Il dit s'il y avait de la communication, s'ils se rencontraient, s'ils pouvaient se parler, s'ils pouvaient se connaître, si les œuvres culturelles circulaient, si on pouvait avoir une vraie connaissance de l'autre, tout serait différent. Et en même temps, dans ce mouchoir de poche, tout est fait, justement, pour empêcher la rencontre. Les Israéliens n'ont pas le droit d'aller dans les territoires palestiniens, et évidemment les Palestiniens n'ont pas le droit non plus d'aller en Israël, n'ont pas le droit d'aller au Liban, les Libanais n'ont pas le droit d'aller en Israël, les Israéliens n'ont pas le droit d'aller au Liban. Donc si vous voulez, toute communication, dans un sens ou dans l'autre, est empêchée par les politiques.
Et si on retournait une dernière fois en salle obscure avec vous, et avec ce film qui vous a valu une notoriété internationale, mais pas que, Much Loved. Pourquoi ce titre anglais d'ailleurs ?
Parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Much love, en anglais, ça veut dire trop aimé. Mais en même temps, ça peut aussi vouloir dire qu'on aime trop quelque chose qui nous est cher. Vous voyez, comme un doudou, un petit nounours avec lequel on a grandi. Donc il y a ces deux sens. ديما كيصبح كيلعش هي الفلوس راه خصنا الفلوس خصنا الكرا خصنا الزبل خصنا الوين بقايره انا اللي كنفكر في هذا الشيء يلا فايقه الو Oh mon chéri, comment ça va?
Oui, mon chéri.
À Marrakech, c'est vrai?
Bien sûr que je peux. Tu te rappelles de Landa?
Oui. La même salia chez Nalioma.
Oui, oui, demain soir, on sera chez toi. Oui. Ça va être la fête. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu m'as ramené ton cadeau?
Cinq.
Chemise et parfum, c'est tout. Où sont les boules chinoises? Ah, alors, si c'est comme ça, je t'aime. Si t'as ramené tout ça, je suis vraiment folle amoureuse de toi. Non, je te promets une très belle soirée. Très, très belle soirée. Mais s'il te plaît, on ne boit pas de bière. Je préfère whisky soit vodka. Ouais. Ouais, si t'as assez d'argent, tu vas avoir assez de filles. Si t'as pas d'argent, c'est un problème. Parce que si tu payes d'habitude, tu peux venir moi et Ronda, pas plus. Non, les cadeaux c'est une chose, l'argent c'est autre chose. Cadeau c'est cadeau. On rentre pas les cadeaux dans ça.
Ah, comme arrêt sur image.
Much Love donc a été une véritable déflagration dans le ciel marocain et peut-être dans le ciel du monde arabe. Vous montrez, Nabil Ayouch, que la prostitution existe bel et bien dans le beau royaume chérifien, que cette prostitution vit grâce notamment à de puissants réseaux séoudiens et qu'il permet en plus à certaines familles pauvres du Maroc de survivre. Évidemment, on peut se dire que c'est un regard occidental que vous posez sur un sujet éminemment tabou. Mais d'ailleurs, vous avez une grammaire un peu de réalisateur occidental. Par exemple, vous filmez l'érotisme avec un œil d'ici, je dirais. Vous montrez les corps, vous montrez la suggestion érotique de ces femmes qui se donnent pour de l'argent, ce qui n'est pas vraiment dans les codes du cinéma arabe où tout est suggéré.
Oui, D'ailleurs, on me l'a souvent reproché, ou on m'a souvent en tout cas posé la question dans les débats que je fais après les projections de films dans les salles au Maroc. Pourquoi est-ce que vous voulez montrer? Pourquoi vous vous contentez pas, comme ça se fait ici, de suggérer, de laisser l'imagination prendre le relais? Et je leur explique que ce que je cherche précisément, c'est montrer. Et que ça n'a pas le même sens que de suggérer. Et c'est très compliqué parce qu'effectivement, on a face à nous une population qui, même si elle est sensible, et même si elle sait, refuse de voir.
Elle est là, votre double culture, artistiquement parlant, et c'est à la fois votre talon d'Achille, peut-être, et votre force. Mais après ce scandale qui a quand même failli coûter la vie à votre actrice principale, Lubna Bidar, qui était dans ce fauteuil dans Sol Majeur il n'y a pas si longtemps, et puis dans ce climat de censure avec lequel vous bataillez, on aurait pu imaginer que Nabil Ayouch fasse ses valises, mais non. En même temps, a priori, on se dit qu'entre vous et le monde arabe, c'est peut-être pas une histoire possible, vous qui êtes résolument moderniste et progressiste.
Au contraire, je pense que Much Love, c'était une façon de tester ma relation au Maroc. Mon envie de critiquer et d'aimer ce pays. Et de le critiquer parce que je l'aime. Et en même temps de résister à des choses qui pour moi étaient de l'ordre de l'incompréhension totale. Parce que faire un film et recevoir des menaces de mort parce qu'on a fait un film, pour moi c'est quelque chose auquel je ne voulais pas croire.
Vous êtes considéré comme un des leurs aujourd'hui, comme un cinéaste marocain?
Je crois que certains me considèrent comme ça, et puis d'autres me considéreront toujours comme un petit peu étranger. Mais vous savez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, soit de se sentir étranger ou soit d'être vu comme étranger. Je pense que ça a quelque chose aussi qui vous protège. Oui, parce que quand, de manière parfois un peu méprisante, j'entends « oui, alors, mais toi, tu te permets de faire ce genre de film parce que t'es pas né ici et t'as pas grandi ici », ben moi, j'ai envie de le comprendre autrement. Ben oui, je suis pas né ici, j'ai pas grandi ici, et oui, c'est probablement pour ça que je fais ces films de cette façon-là.
Vous relevez le gant.
J'ai envie, en tout cas, de continuer à assumer qui je suis. Je crois que j'ai pas le choix, Yasmine. Je suis né à Paris, et je suis qui je suis. Ça, je n'ai pas décidé de naître comme je suis né, avec ces cultures et ces origines qui se rencontrent parfois et s'entrechoquent parfois.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Nabil Ayouch, un Freddy Mercury marocain, Mohamed Choukri en prince des rues, et puis surtout un film, Razia, que l'on peut voir en salle ici à Paris et ailleurs dans le monde.
Et ailleurs dans le monde, oui, parce qu'il sort très bientôt au Brésil.
En sol majeur, avec Facebook, Twitter, et puis en podcast sur notre application Pure Radio, et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel, 16h à Paris. On vous retrouve et on vous espère demain avec Patrick Chamoiseau. À demain. Ah, في الرياح يا